Bon, ce soir, on va ouvrir un nouveau chapitre hein, dans le livre des juges. Nous arrivons au chapitre 6, et à une nouvelle période ici dans l'histoire d'Israël. Et nous allons voir dans plusieurs chapitres, en fait, hein, le récit de comment l'Éternel a pu employer un homme du nom de Gédéon pour apporter la délivrance à son peuple. On va déjà lire en tout cas les versets premiers jusqu'au verset 10 pour qu'on puisse voir un peu la situation dans laquelle se trouvait Israël à ce moment-là et particulièrement Manassé. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. » Mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc ici, ce que l'on va voir, c'est que Israël, et particulièrement donc Manassé, se trouve dans une situation où règne la terreur. Parce qu'à un moment donné, hein, durant les 40 années de repos hein, qui ont suivi la délivrance apportée par Déborah et Barak, eh bien, comme on le voit au début de ce chapitre, les enfants d'Israël firent de nouveau ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus loin dans le chapitre, on va voir que effectivement, hein, la situation spirituelle était de nouveau hein, au plus bas, hein, de nouveau plongée dans l'idolâtrie. Hein, au verset 25, on voit même que la famille même de celui qui allait apporter la délivrance, c'était une famille qui était tombée dans l'idolâtrie. Hein, dans le verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » Et même par la suite, la réaction des villageois qui vivaient hein, autour de la famille de Joas, de Gédéon, eh bien ça en dit long hein, sur l'égarement spirituel, parce que suite eh bien, au fait que Gédéon va démolir hein, cette statue, cette idole, eh bien, les gens du village eh bien, ont demandé que Gédéon soit mis à mort. Donc vers à peu près 1200-1220 avant Jésus-Christ, on voit qu'à cause de cette situation-là, eh bien, l'Éternel va livrer hein, entre les mains des Madianites le peuple d'Israël pendant une période de 7 ans. Alors, les Madianites, il faut savoir que c'était un peuple du désert, c'était un peuple qui était des descendants d'Abraham, n'est-ce pas? Après le décès de Sarah, Abraham avait pris une concubine, Keturah, et avait eu 6 fils, dont Madian. Et parmi tous les fils hein, d'Abraham, ces fils-là et Isaac n'ont pas eu le même partage. Hein, Isaac était le fils de la promesse, il était l'héritier d'Abraham. Abraham a été bon, il a été généreux, hein, il a accordé des biens à ses autres fils, mais il a aussi demandé à ce qu'il s'éloigne le plus possible d'Isaac, pour que Isaac puisse profiter pleinement hein, de la promesse faite à Abraham par l'Éternel, hein, du pays hein, que l'Éternel lui avait accordé. Et donc, on peut facilement imaginer également hein, le fait que cette parenté éloignée hein, existait entre les Madianites et Israël hein, pouvait particulièrement être pénible pour les Israélites. Notez également que cette oppression, elle s'apparentait davantage à du terrorisme qu'à des batailles militaires. Hein, dans d'autres situations, il y a eu des batailles, il y a eu des conflits, Mais là, on est dans une situation plus de pillage, de ravager les récoltes, etc., de rien laisser hein, aux Israélites comme production, comme moyen de subsistance. Et donc, on est plus dans cette optique-là que dans des batailles rangées et organisées. Donc, l'étendue de cette terreur a grandi lorsque les Madianites hein, se sont joints ensuite aux Amalécites et après à d'autres peuples hein, de l'Est, les fils de l'Orient. Et avec cela, donc, on a une situation où eh bien, chaque année, à la moisson, eh bien, ce groupe mené par les Madianites eh bien, déferlait, traversait le Jourdain, remontait la vallée hein, d'Israélon et s'attaquait à toute la production agricole hein, que Israël avait pu accomplir dans l'année. Et donc, on comprend qu'on est dans une situation où on finit par affamer. On finit par affamer un peuple. Donc, les Madianites qui envahissaient, qui attaquaient, qui détruisaient avec leurs chameaux étaient en si grand nombre qu'il était même pas possible hein, de compter précisément. On n'a pas de chiffres sur combien ils étaient, mais on a une image. On a l'image d'une invasion de sauterelles. Hein, je crois qu'on a déjà vu, hein, chacun d'entre nous, peut-être des photos ou des montages vidéo hein, de nuées de sauterelles dans différents pays qui envahissent et qui dévorent les récoltes en quelques minutes. Il ne reste plus rien. Et on a cette image-là par rapport aux Madianites hein, qui sont venus dans le territoire de Manassé et détruire toutes les récoltes. Donc on a une situation de terreur, on a une situation qui est due à quoi, encore une fois, le fait que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu et avait suivi les idoles. Alors, les Israélites, ils essayaient de faire comme ils pouvaient hein, pour survivre. Et dans ce passage, on voit qu'ils étaient amenés finalement à se cacher eux et cacher leur récolte aussi. Hein, je crois qu'il n'y a pas loin d'ici hein, une cité souterraine qu'on a visitée il y a longtemps. Et puis je me rappelle que l'histoire un peu, c'était ils avaient un peu creusé ces grottes pour pouvoir cacher des récoltes et éviter de payer plus de taxes. Et c'était un système assez bien fait, quoi. Mais l'idée, c'était ça. Ils se cachaient dans les montagnes, dans les grottes, partout où ils pouvaient. Ils faisaient même un peu les choses en secret et cachés, comme on va le voir hein, avec Gédéon, qui lui-même hein, va être en train de moudre hein, du froment, mais à l'abri, caché, hein, sous un térébinthe. Donc c'est une période de grande pauvreté, une période d'oppression, de persécution. Et puis c'est surtout une période d'impuissance pour le peuple d'Israël. Et donc ça les amène, encore une fois, à crier vers l'Éternel. Hein, il y a cet appel à Dieu, hein, l'effet de toutes ces incursions eh bien, sur le moral hein, du peuple d'Israël, eh bien, a suscité ce cri, a suscité cet appel vers l'Éternel pour qu'il les délivre. Hein, le verset 6, « Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Et on voit que la réponse de Dieu, elle est assez cinglante. Après 7 années d'oppression, de peur, ils implorent l'Éternel. Et la réponse de Dieu, qui se fit par la bouche d'un prophète complètement anonyme, hein, d'ailleurs dans le livre des Juges, il n'y a que 2 mentions de prophètes, Déborah et celui-ci. Le Seigneur envoie donc ce prophète, et ce prophète va partager les paroles de l'Éternel. Donc le Seigneur, oui, il avait entendu leur prière, il avait déjà choisi l'homme qui allait accomplir et apporter la délivrance pour le peuple, mais d'abord, il fallait qu'ils comprennent pourquoi ils étaient dans cette situation-là. Ils avaient abandonné l'Éternel. Donc avant toute chose, l'Éternel leur rappelle ben, l'historique des merveilles qu'il avait accomplies pour la nation d'Israël par le passé. Hein, il les avait fait sortir d'Égypte, dont les dirigeants les avaient opprimés, mis en esclavage. Il avait chassé leurs ennemis, il leur avait donné le pays qu'ils habitaient désormais. Il leur avait dit qu'il était l'Éternel leur Dieu, et il leur avait ordonné de ne pas adorer les dieux des Amoréens, etc. Et ils étaient tombés de nouveau dans ce péché d'idolâtrie. Et là, l'Éternel, il conclut justement en pointant la réalité de ce qu'Israël avait fait, de toutes ces bénédictions-là, tout ce que Dieu avait fait de bon pour eux. Eux, ils avaient choisi de s'éloigner de lui, de l'abandonner, de désobéir en adorant d'autres dieux. On sait que Israël donc entretenait cette relation unique avec Dieu, hein, cette alliance qui existait entre l'Éternel et le peuple d'Israël est une alliance unique, hein, dans l'histoire de l'humanité. Mais il y avait des conditions. Il y avait des conditions qu'Israël devait remplir. Et on a déjà vu, hein, plus ou moins ces choses un peu en long et en large dans les leçons précédentes. Mais voilà, leur condition à eux, c'est qu'ils devaient rester fidèles à l'Éternel. S'il fallait résumer, c'est ça. Mais les conséquences ici de l'abandon du Seigneur étaient dévastatrices. À chaque fois qu'Israël s'est éloigné de Dieu, les conséquences ont été terribles pour Israël. Dieu les avait prévenus. Dans Deutéronome 28, Dieu les avait prévenus par rapport à cela que s'ils venaient à suivre d'autres dieux, les conséquences pour eux seraient terribles. Alors bien sûr, ça, c'est pas forcément le message qu'on a envie d'entendre. Hein, on essaie peut-être de se mettre un peu à la place d'Israël, là. On n'aime pas nous-mêmes, quand on a fauté, que quelqu'un vienne nous dise « Ah bah, tu as fauté !» Hein, ta situation dans laquelle tu es maintenant, ce que tu es en train de vivre, eh bien, ce sont les conséquences de tes choix. Tu as fait des mauvais choix, tu as choisi de désobéir, et voilà ce qui arrive. Qui aime ça? Personne, n'est-ce pas? Mais je crois qu'ici, pour Israël, comme c'est le cas pour de nombreux chrétiens, hein, lorsque Dieu nous reprend, lorsque l'Esprit Saint nous reprend, lorsque on doit faire face, eh bien, aux conséquences de nos péchés, oui, on aurait préféré plutôt quelque chose de rassurant, une promesse rassurante, une assurance que Dieu allait aider et délivrer, peut-être immédiatement ou rapidement. Mais l'Éternel veut surtout que Israël, avant toute chose, comprenne bien, encore une fois, que vous choisissez le péché, eh bien vous perdez les bénédictions, vous perdez ma protection, etc. Et donc il était important pour eux qu'ils soient confrontés à la réalité, hein, de leur situation. Et donc on en arrive, eh bien, à ce choix que l'Éternel a fait pour amener, hein, la délivrance pour le peuple d'Israël, ce choix de Gédéon. Et on voit donc au verset 11 que l'ange de l'Éternel lui-même vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Donc ici, nous voyons Gédéon, ce vaillant héros choisi par Dieu. Et nous voyons que c'est l'ange de l'Éternel lui-même qui va venir à sa rencontre pour lui désigner son plan pour sa vie. Et donc après cette mise au point faite par l'Éternel concernant le péché d'Israël, eh bien là on voit l'ange de l'Éternel qui va venir s'entretenir avec Gédéon, ce fils de Joas, de la famille d'Abiézer, de la tribu de Manassé. Il y a dans les Écritures probablement une soixantaine de passages où il est question de cet ange de l'Éternel. On en a déjà discuté il y a quelque temps de cela quand on a vu le chapitre 2 du livre des Juges. Mais on sait que dans la majorité des cas où on a cette expression « l'ange de l'Éternel », on sait qu'il s'agit de Dieu lui-même qui s'exprime. Dieu lui-même qui, d'une manière physique, d'une manière visible, d'une manière audible, va se faire connaître et va faire connaître à une personne ce qu'il attend d'elle. Mais là, ce que je voulais souligner, c'est que dans ce passage, on voit cela. Ça coule de source, n'est-ce pas? Au verset 12, l'ange de l'Éternel interpelle Gédéon, et puis au verset 14, après que Gédéon ait remis en doute la bonté de Dieu, nous lisons, et sans qu'il y ait de discontinuité dans le dialogue ici, l'Éternel se tourna vers lui. Et il dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Donc là, clairement, on comprend que c'est l'ange de l'Éternel, que c'est Dieu lui-même qui est en train de s'adresser à Gédéon, mais Gédéon n'en s'en rend pas compte tout de suite. Lorsque Gédéon réalise justement à qui il a affaire, sa réaction prouve qu'il était dans la présence de l'Éternel. Au verset 22, il dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Cette réaction, c'est la même qu'on voit dans le livre de Josué. Lorsqu'il voit quelqu'un, il dit « Es-tu un ennemi ou un ami ?» Il dit « Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Et à ce moment-là, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué va comprendre qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui l'a en face. Il tombe le visage contre terre et il adora. Il adora. Plus loin, on verra ça un peu plus tard, Manoac, le père de Samson, était dans cette même situation lorsque l'ange de l'Éternel va lui révéler à lui et à sa femme qu'ils allaient avoir Samson et quelle serait sa destinée. Et lorsqu'il comprend qui il a affaire, on voit, dans le chapitre 13, verset 22, il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » D'accord ? Ésaïe, c'est un autre passage aussi dans les Écritures, le prophète Ésaïe, quand il a sa vision de voir le Seigneur assis sur un trône élevé dans le temple, dans Ésaïe chapitre 6, il a cette même réaction. « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. » Donc là, en prenant conscience de la présence de Dieu, Gédéon va changer d'attitude. Et je crois que toute personne, tout pécheur qui est sensible à Dieu, sensible à sa volonté, va dans ces situations-là éprouver une profonde culpabilité, comme on le voit avec Ésaïe. Je suis un pécheur, je suis d'un peuple pécheur, je suis perdu, j'ai vu l'Éternel. Mais lorsqu'on prend conscience que, voilà, on est dans la présence de Dieu, l'attitude change. Ce feu divin qui est venu consumer cette offrande a rempli Gédéon d'une crainte respectueuse. Certains peuvent penser peut-être à une peur assez panique de ce qui va se passer. Il a peur de la mort, mais cette crainte l'amène à être dans une révérence par rapport à l'ange de l'Éternel. Et il fait nul doute que ici l'Éternel est bien celui qui s'adresse directement à Gédéon pour l'appeler à mener la délivrance du peuple. Mais ce que j'aime beaucoup ici dans ce récit, C'est comment l'Éternel vient en toute simplicité. Il vient là où se trouve Gédéon, alors qu'il est occupé, il est en cachette, il essaie de moudre ce froment caché hein, des Madianites. Et l'Éternel vient et il s'assoit et il parle à Gédéon. Gédéon, qui était-il? Si ce n'est mais un homme ordinaire. Même si on voit ici que c'est le personnage central hein, des chapitres 6, 7 et 8, c'est un homme ordinaire qui a vécu dans une période sombre de l'histoire de son peuple, mais on voit que cette rencontre-là a transformé sa vie. Cette rencontre-là a fait de cet homme ordinaire eh bien, ce héros vaillant tel que l'ange de l'Éternel l'a interpellé, hein, « L'Éternel soit avec toi, vaillant héros ». La ville natale de Gédéon, Ophra, hein, se situait dans la frontière près de Madian, et probablement, hein, c'était une des villes qui était logiquement hein, les plus attaquées par les Madianites. Alors Gédéon, dont le nom d'ailleurs ça signifie hein, celui qui coupe, celui qui abat, n'avait pour lui-même rien de remarquable. C'était un jeune homme ordinaire, issu d'une famille sans importance. Il traversait certes une période traumatisante de l'histoire d'Israël et il faisait tout son possible pour survivre. Et l'ange de l'Éternel l'appelle « vaillant héros ». On a un homme ordinaire aux reproches ordinaires. La réponse de Gédéon face à cette salutation, eh bien, c'est quelqu'un qui a des reproches contre Dieu. On le voit ici donc dans une situation hein, où il est seul, il est dans ce lieu où généralement le pressoir hein, s'était utilisé pour écraser le raisin. Donc on voit qu'il essaie de vraiment détourner l'attention pour faire comprendre, pour pas qu'il se fasse prendre par les Madianites. Et quelque part, cette scène, ça nous donne aussi un peu l'image hein, de la situation. Hein, une situation où, de désespoir, hein, une situation qui l'amène à agir dans la clandestinité, à se cacher hein, des Madianites. Mais voilà, ça contraste avec la parole de l'ange de l'Éternel, vaillant héros. Hein? Je crois que la réaction première, que si moi j'étais là à la place de Gédéon, ça aurait été, qui, moi? Tu te trompes de personne. C'est pas moi le vaillant héros. Mais là, Gédéon, il n'a pas conscience de qui est son interlocuteur. Mais voilà, surpris par la manière dont celui-ci le salue, hein, l'Éternel est avec toi. La réponse de beaucoup de gens encore aujourd'hui, comment ça? Comment est-ce qu'il pourrait être avec moi? Tu vois pas ce qui se passe autour là? Comment est-ce qu'il pourrait être là en train d'agir? N'importe quoi, n'importe quoi. C'est la réaction de Gédéon ici. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Rappelons-nous que Gédéon, tout comme le reste de sa tribu et du peuple, a enduré 7 années d'oppression de la part des Madianites. 7 années. Or, on peut comprendre qu'il n'arrivait pas à concilier hein, tous ces événements avec cette parole de l'ange de l'Éternel, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Mais ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que l'ange de l'Éternel n'a même pas répondu à ces questions-là. N'est-ce pas? Il lui dit « Va avec la force que tu as ». N'est-ce pas moi qui t'envoie? D'ailleurs, lorsque il interpelle Gédéon en disant « L'Éternel est avec toi, hein, vaillant héros », quand l'Éternel est avec toi, littéralement, c'est « Sa puissance repose sur toi ». Sa puissance repose sur toi. Alors oui, Gédéon ne pouvait ni voir, ni ressentir la présence de Dieu dans sa vie. Mais à ce moment-là, il allait être sur le point d'être employé par l'Éternel d'une manière si puissante que là, à ce moment-là, il est loin de s'imaginer de ce que l'Éternel allait accomplir à travers lui. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque finalement on comprend ce que nous enseignent les Écritures par rapport à la présence de Dieu, par rapport à la présence de l'Esprit Saint dans chaque croyant, de cette puissance qui est mise à notre disposition, comme on a vu dimanche, ça transforme. Ça transforme les vies, ça transforme les décisions et les choix que nous faisons dans notre vie. Donc on voit aussi un homme ordinaire avec des excuses aussi ordinaires qu'on entend le plus souvent également. Gédéon, je crois qu'il était bien conscient de ses faiblesses comme nous le sommes tous. En verset 15, il se dit « Comment est-ce que moi je pourrais faire cela ?» Il était l'homme le plus faible, issu de la famille la plus humble, du plus petit clan de la tribu la moins importante. C'est comme ça qu'il se voyait. Mais ce qu'il ne voyait pas encore, c'est qu'il était devenu l'homme de Dieu pour cette situation. Et qu'il avait reçu la même promesse que Moïse, Josué, je serai avec toi. Alors certes, il y aura des moments où même nous, nous allons nous trouver dans des situations difficiles, hein, et beaucoup de chrétiens à travers le monde se trouvent dans des situations semblables à celles de Gédéon. Mais voilà, incapables de concilier ces victoires spirituelles que nous voyons dans la parole de Dieu avec notre propre vie, avec les épreuves que nous pouvons vivre. Alors oui, nous aurons peut-être aussi des questions, hein, comme celle de Gédéon, auxquelles il n'y aura pas de réponse. Mais la seule réponse de Dieu, et c'est la plus grande, c'est moi qui t'envoie. Je suis avec toi. Je suis avec toi. N'est-ce pas là la même promesse que le Seigneur Jésus lui-même, avant de retourner auprès du Père, a communiqué à ses disciples, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20, n'est-ce pas? Et alors si nous comprenons cette vérité-là, comme Gédéon a fini par comprendre qui il avait en face de lui, qui lui avait dit « Va avec la force que tu as », c'est-à-dire « C'est que moi je t'accorde, je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie », eh bien nous serons finalement des personnes en qui Dieu va pouvoir agir et va pouvoir employer pour faire justement la différence, pour accomplir ce que Dieu a prévu. Et donc il n'est pas nécessaire d'être quelqu'un d'intelligent ou d'influent, comme on l'a déjà souligné. Il suffit tout d'abord d'être prêt, disposé, engagé à vouloir servir l'Éternel, à obéir à sa parole et à dépendre de sa force. Comme Paul l'avait dit, et on l'avait souligné aussi, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est en Christ que je me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc on finit par avoir un homme ordinaire transformé par la présence extraordinaire de Dieu ici dans ce récit. Au verset 16, on voit l'Éternel qui réaffirme cet appel à Gédéon. Il lui dit qu'il pourra anéantir les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. C'est une puissance extraordinaire. Autrement dit, le Seigneur lui dit « Je vais t'employer d'une manière puissante, merveilleuse, extraordinaire. Tout ce que tu dois faire, c'est obéir à ce que je te dis. » Et là, on trouve un Gédéon qui, comme beaucoup d'entre nous, est plutôt hésitant, qui a besoin peut-être de confirmation. Est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que c'est vraiment moi? Et donc, il veut une preuve que c'est bien Dieu qui lui parle. Et là, il va demander un signe. Et on verra que ce n'est pas la dernière fois qu'il le fera. Mais je crois qu'on peut d'ores et déjà rendre grâce à Dieu qu'il soit patient. Patient face à notre incrédulité, patient face à nous qui traînons un peu la patte pour obéir à sa volonté. Alors oui, on va trouver la grâce de Dieu. Est-ce qu'on doit effectivement à chaque fois faire comme Gédéon, essayer de dire « ben Dieu, prouve que tu es vraiment là, prouve ceci, etc. » Je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons été déjà dans des situations où nous avons prié ainsi. Hein, Dieu, montre-moi clairement, donne-moi un signe. Mais voilà, lorsque l'ange de l'Éternel, ici, il reçoit cette offrande, il reçoit déjà ce premier geste de la part de Gédéon, ce premier pas de, on peut dire, de foi, si vous voulez. Eh bien, là, l'ange de l'Éternel accepte cette offrande, il va toucher de ce bâton, et là, il y a un feu qui jaillit du rocher, un miracle, quelque chose d'extraordinaire. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel n'est plus visible aux yeux de Gédéon. Et la réaction de Gédéon au verset 22, c'est une réaction de crainte. C'est le genre de crainte que la Bible nous exhorte d'éprouver, d'avoir. C'est cette profonde révérence, cette admiration pour Dieu, accompagnée de ce désir de vouloir lui plaire. Souvent, c'est vrai que on cherche à, on considère, on va dire, la peur comme quelque chose qui devrait être étranger à la vie chrétienne. D'avoir ce courage. Dans le Nouveau Testament, il est question que l'amour parfait bannit la peur. Mais il y a cette crainte, cette peur qui est juste, et c'est celle envers l'Éternel. C'est celle que Gédéon ici fait preuve. C'est cette même crainte de l'Éternel que nous-mêmes nous devons avoir, de vouloir nous efforcer chaque jour de plaire à Dieu, même si, comme ça a été le cas pour Gédéon, ça l'a amené à être en conflit avec sa famille, avec son village, et il a dû prendre des décisions importantes, radicales. Mais cette crainte, cette manifestation de la crainte de Dieu, elle était accompagnée au verset 23 par des paroles rassurantes de la part du Seigneur, qui a réconforté Gédéon par sa présence, mais aussi par cette promesse d'être avec lui. Quand Dieu confie donc une mission, c'est lui qui donne la force de l'accomplir, c'est lui qui accorde également la paix, la sérénité par rapport à cette mission. Et la réaction logique de Gédéon a été l'adoration. On a une réaction doxologique, il va bâtir un autel, il va donner à ce lieu le nom de l'éternel, paix, l'éternel notre paix. C'est dans la logique des choses. Et donc, de prime abord, Gédéon ne semble pas destiné à accomplir grand-chose dans l'œuvre du Seigneur. Il est craintif, il est timide, il est rongé par le doute. Il a plus de questions que de réponses. Mais finalement, quand il est appelé à servir, quand il comprend qui il a appelé, quand il comprend qui est derrière cet appel et cette force qui est là, eh bien, ça l'a aidé progressivement à façonner l'homme qu'il est devenu, l'homme que Dieu a employé pour délivrer son peuple. Et donc la question pour nous aujourd'hui, c'est sommes-nous en train d'exécuter le plan de Dieu pour notre vie? Sommes-nous en train de suivre sa volonté? Est-ce que on est pleinement conscient et pleinement actif dans le rôle et le plan que Dieu a prévu pour notre vie en tant que chrétien, de la manière dont on peut le servir, de la manière dont on doit le servir, ou bien est-ce qu'on se contente de juste d'être là, se contenter que tout ça va se passer, et on attend que le Seigneur revienne, ou bien est-ce que peut-être nous sommes un peu comme ceux qui ont peur? Ceux qui ont peur d'agir, ceux qui ont peur de parler, ceux qui hésitent à servir le Seigneur, qui cherchent des excuses. Moi, qui suis-je pour faire quoi que ce soit pour l'Éternel? Quelle capacité est-ce que j'ai pour servir l'Éternel? Mais on voit dans les Écritures qu'à chaque fois qu'il y a eu des hommes qui ont cherché des excuses, l'Éternel, il a balayé ces excuses-là. Et on va voir. Donc par la suite, Dieu voulant, la semaine prochaine, qu'une autre réaction logique de la part de Gédéon, lorsque il a cette révélation, lorsqu'il a conscience de cette mission, conscience de qui il appelle, eh bien la réaction logique de Gédéon, c'est l'obéissance à ce que Dieu lui demande. Y a-t-il des questions ou des commentaires ce soir?